Rappelez-vous que dans les messes de funérailles, le prêtre ne dit pas « Je te rends grâce, Seigneur, car tu m'as fait comprendre les preuves philosophiques de l'existence de l'âme, de l'immortalité de l'âme, telles qu'elles sont exposées dans le Phédon de Platon. » Non. « Seigneur, je te rends grâce, car si le Christ est ressuscité d'entre les morts sous Ponce Pilate, l'homme ou la femme qui est dans le cercueil ressuscitera un jour, lui aussi, elle aussi. » C'est unique dans l'histoire des religions. Nous faisons dépendre notre foi dans l'au-delà d'une expérience historique faite par quelques privilégiés sous Ponce Pilate. Et alors, quand on a des hésitations, on sait que Jésus a dit des choses sur l'au-delà et on lui fait confiance. J'aime rappeler que la petite Thérèse de Lisieux a eu des doutes terribles dans les 18 derniers mois de sa vie sur l'existence de l'au-delà. Elle a eu des doutes comme personne d'entre vous n'en aura. Elle avait l'impression que lorsqu'elle serait au cimetière de Lisieux, lorsque son corps serait en poussière, il ne resterait rien de sa conscience. Ma petite, quand on est mort, tout est mort. Comment a-t-elle fait pour sortir de ses doutes et ne jamais douter? Elle a eu des doutes, mais elle n'a jamais douté. Car le mot doute en français est ambigu. Il peut désigner une difficulté qu'on a dans sa foi ou le fait de douter. Thérèse a eu des doutes, mais elle n'est jamais tombée dans l'acte de douter. Elle a même dit qu'elle a multiplié les actes de foi à la fin de sa vie plus que dans tout le reste de son existence. Donc, elle ne s'est pas laissée aller à ses tentations de douter parce qu'elle s'est appuyée sur la parole de Dieu et uniquement sur la parole de Dieu. Là où je suis, vous serez vous aussi, dit Jésus. Ben, si tu le dis, Jésus, c'est que je serai, c'est qu'il y a un ciel. Je vois pas comment. Je vois vraiment pas comment. Mon esprit reste envahi par toutes les objections, mais puisque tu le dis, c'est vrai. Je crois que c'est très important. Je vous parlais tout à l'heure des manifestations des âmes du purgatoire, mais nous ne devons pas appuyer notre foi là-dessus. Pas plus que je n'appuie ma foi sur, au point de vue marial, sur les apparitions de Lourdes, de Fatima, de Borin, etc. Je m'y intéresse. Je vais même éventuellement en pèlerinage en tel ou tel lieu, mais ma foi en la Sainte Vierge, elle vient de la Bible et non pas des apparitions. Je crois qu'il faut toujours bien remettre les choses en place. Parce que nous sommes toujours tentés, voyez, de vouloir. Autant nous avons le droit de chercher des signes, des preuves de notre foi, ce qu'on appelle l'apologétique, autant nous n'avons pas à multiplier des démarches pour justement essayer de voir si par hasard grand-mère qui vient de mourir va me donner un petit clin d'œil de sa présence dans le ciel. Ça, méfiez-vous comme de la peste de ce genre-là. Même si vous pouvez trouver en librairie toute une série de bouquins qui vous disent le moyen d'être en communication avec l'au-delà. Nous n'avons pas à chercher. Peut-être que vous ne reviendrez pas la fois prochaine à cause de ça, parce que vous êtes peut-être déçu que je ne vous donne pas une recette pour avoir communication avec l'au-delà. Ah, si je vous donnais recette, il y aurait 10 fois plus de monde pour écouter ma conférence. Est venu à Cambrai à Douai l'année dernière un prêtre dissident qui fait courir les foules. François Brune, sulpicien, les morts nous parlent. Ah, on va écouter François Brune qui nous dit que les morts peuvent nous parler. Mais ça, c'est plus la. Même s'il se présente comme prêtre, il est complètement dissident. Mais ça fait fortune, bien sûr, parce qu'un prêtre original, il nous dit que les morts nous parlent. Aujourd'hui, pas besoin d'aller chercher Ponce Pilate, non, aujourd'hui, dans votre chambre, en mettant un magnétophone bien placé. Je respecte infiniment cet homme, il est très certainement sincère, mais ce n'est pas la foi catholique, ça. Ça ressemble beaucoup au spiritisme. C'est toujours malsain de chercher comme ça. Mais la Bible elle-même nous parle que le premier roi d'Israël, Saül, a péché de ce point de vue-là. Quand il s'est rendu compte qu'il était écarté du trône en faveur de David, le petit rouquin David qui est devenu roi d'Israël à sa place, il est allé consulter une nécromancienne pour savoir ce qu'il en était. Et il a fait venir les mânes de Samuel, qu'il avait sacré roi. Et Dieu lui reproche après vertement d'avoir fait ce genre de nécromancie. Et la Bible ne cesse de dénoncer le spiritisme, y compris le spiritisme pratiqué par le premier roi d'Israël, le roi Saül. On pense qu'à Paris, il y a plus de gens qui se livre à, ce, à cette chose-là que de médecin. Alors évidemment, le ministère des Finances n'arrive pas à savoir le chiffre d'affaires de tous ces gens qui vous lisent, qui vous lisent l'avenir, etc. C'est un chiffre d'affaires extraordinaire. Les gens dépensent des sommes énormes pour connaître l'avenir, pour faire bon. Alors, balbutions quelque chose à l'aide de ceux qui, comme Catherine de Gênes, ont eu des lumières sur le purgatoire. Tous ceux qui en parlent se réfèrent à ces confidences que Catherine de Gênes, qui a vécu de 1447 à 1510, a confidences qu'elle a faites à ses intimes, et ce sont eux qui ont mis cela par écrit. Elle a donc écrit ou dicté tout un petit traité du purgatoire. La grande idée que je fais passer ce soir, c'est que le purgatoire n'est absolument pas une punition. C'est une bénédiction. Tous ceux qui ont essayé de comprendre et qui ont compris le purgatoire ont compris que les âmes du purgatoire ne sont pas punies par Dieu. Leurs péchés sont entièrement pardonnés. Et elles sont incapables de pécher. Elles sont incapables de rouspéter contre l'état dans lequel elles sont. Elles chantent la miséricorde de Dieu tout en souffrant. Le purgatoire, c'est un grand mélange de bonheur et de souffrance. Vous savez que c'est un paradoxe que j'aime bien développer. Je vous l'ai souvent dit. Jésus, par exemple, sur terre. Jean-Paul II le rappelle avec force dans sa dernière lettre millénaire, sur le troisième millénaire. Jésus a connu cette coexistence entre une très grande joie et une très grande souffrance. J'en ai parlé l'année dernière, mais les profs aiment bien de faire des répétitions. Jésus a été l'être le plus heureux de la planète, rappelle Jean-Paul II. Ne laissez pas dire que Jésus a été paumé, mes chers amis, dit Jean-Paul II. Quand on sait qu'on est le Fils de Dieu, ça vous donne une joie pas possible. Et même sur la croix, pense Sainte Catherine de Sienne, même sur la croix, Jésus devait jubiler tout au fond de son cœur. Il était en train de sauver le monde. Quand on sait qu'on est en train de sauver le monde, ça vous donne une joie extraordinaire. Il a dit quelques heures plus tôt, voici le calice de mon sang répandu pour vous et la multitude en rémission des péchés. Quand on sait qu'on est en train de verser son sang pour le salut du monde, comment ne serait-on pas le plus heureux? Bien sûr, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si vous regardez la suite du psaume, ça se termine par un cri de victoire. Et c'est pourquoi les moines de Tamier chantent la première partie du psaume 21 sur un mode mineur et la deuxième partie sur un mode majeur. D'ailleurs, remarque Jean-Paul II, après des millions de gens qui l'ont aperçu avant lui, c'est que, à Gethsémani, au moment où Jésus souffre le plus, c'est le seul moment où on le voit dire « Adieu, papa chéri, Abba ». Le seul endroit de l'Évangile où l'on voit Jésus appeler son père « Papa, Abba », c'est Gethsémani. Dans l'Évangile selon saint Marc, juste à côté du texte où saint Marc dit que Jésus a été pris de panique. Et coexistence mystérieuse que les saints ont bien comprise entre une très grande souffrance et une très grande joie. J'ai fait une conférence il y a un petit peu plus d'un an à Paray-le-Monial pour la fête de Sainte Marguerite Marie, une longue conférence où j'ai expliqué que Jésus a souffert dès le début de son existence.